Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale qui est faite à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris et toujours disponible en librairie. Nous en sommes maintenant au chapitre 6 de cet ouvrage qui s'appelle « Psychomachie » ou « Le combat de l'âme ». Et donc c'est un mot grec, hein, psyché c'est l'âme et maché c'est le combat. Hein. Nous allons voir en quoi justement réside ce combat. D'abord, réfléchissons à l'opposition entre l'ombre et le masque. Je forme l'hypothèse que toute culture est un dialogue entre un masque social et une ombre. L'ombre comprend l'ensemble des pulsions refoulées. Les productions symboliques diverses tendent toutes alors à réunir les deux moitiés de l'être, de la psyché, qu'elles soient individuelles et collectives. Et là, vous reconnaîtrez le schéma central de la dialectique du moi et de l'inconscient de Jung. Je m'inspire beaucoup de Carl Gustav Jung dans mon ouvrage. Donc l'âme va combattre, lutter, pour cette réunion des deux moitiés de l'être humain, dans la perception d'une sagesse supérieure ou d'une logique plus large que celle du masque ou de la personnalité sociale. Et à cette sagesse va concourir l'intégration de l'ombre, donc les textes, les fictions, les symboles, les usages, les comportements, les rites divers vont baliser ce combat de l'âme, ce que j'appelle psychomachie. Alors, il convient d'abord de voir comment naît cette ombre, comment elle se nourrit, comment elle sollicite les hommes, avant de voir quels sont les dangers qu'elle représente et ce qu'elle peut nous apporter de positif. Alors, genèse de l'ombre. Il faut partir de l'idée du choix. Vivre, c'est faire des choix. Et choisir, c'est éliminer. C'est éliminer tout ce qu'on ne choisit pas. Choisir, dit Gide dans ses nourritures terrestres, m'apparaissait non tant élire que refuser ce que je n'élisais pas, c'est-à-dire non pas tellement choisir que refuser ce que je ne choisissais pas. Et tout choix est fondamentalement tragique, car il est exclusion de possible, ce qui n'est pas choisi. Spinoza disait très bien « omnis determinatio est negatio », toute détermination est une négation. Alors, plus grand est le nombre des choix, plus grand est ce tragique qui est l'envers de la liberté. Imaginez la vie comme une partie d'échecs. Au début, le nombre de coups possibles est quasiment infini, et c'est pourquoi ce moment d'avant le jeu des premiers coups est magique et véritablement privilégié. Le début de la vie, l'enfance, la jeunesse, où l'on n'a pas encore joué, s'entoure toujours d'une aura particulière, aura à URA, c'est une auréole particulière. Tout semble possible, et on n'a pas encore déplacé les pièces sur l'échiquier, rien n'est encore choisi, et c'est là la magie des commencements. On peut dire que les dieux aiment les commencements. Et dans les commencements, rien n'est encore déterminé, il y a une indistinction initiale, une irrésolution. Et alors après, on aura une cascade de choix, alors irrésolution d'abord, puis solution, puis résolution, et enfin peut-être dissolution. Comme disait Kafka, vivre c'est gagner, ça tombe. Mais n'anticipons pas, c'est vrai que tout ce qu'on choisit, tout ce qui est fait effraie, c'est-à-dire nous fait peur, tout ce qui est déjà réalisé. Alors reprenons notre métaphore du jeu d'échecs. On commence à déplacer les pièces, et plus la partie s'avance, plus le nombre des coups qui restent à jouer se restreint, et vers la fin, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Alors nous regrettons peut-être d'avoir joué de telle ou telle façon, et non pas de telle ou telle autre, Et donc nous commençons à être tourmentés par une ombre, cette ombre qui provient de nos choix eux-mêmes, c'est la part non choisie de tous nos choix. Et plus les choix sont nombreux, plus l'ombre est dense et opaque, plus elle pèse sur nous. Ainsi, Beckett écrit dans « Fin de partie », les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas, vous voyez. Donc, je pourrais dire, en jouant sur les mots, comme j'aime le faire, hein, petit à petit, je me tasse, je deviens un petit tas, petit tas, petit. Hein. Reprenons l'idée du choix. Hein. Si j'épouse, par exemple, une femme blanche, j'élimine les Africaines, les Asiatiques, etc. Si je choisis tel métier, j'élimine tous les autres. Hein. Si je développe mon côté viril, j'élimine ma partie féminine. Si je cultive mon extraversion, j'élimine mon côté introverti, etc., etc. Ce que je ne choisis pas ne va pas cesser d'exister pour autant. Cela va être enfoui au fond de moi-même, cela va être refoulé. Alors, nous refoulons par exemple toutes nos blessures narcissiques, hein, mais ces blessures à chaque instant peuvent se rouvrir. Hein. Je suis un être tout couturé de cicatrices, hein, cette cicatrice des blessures que j'ai reçues. Et notez, à propos des blessures narcissiques, que les blessures ne sont pas qu'affectives ou sexuelles, elles sont aussi sociales, comme l'a montré le sociologue Bourdieu. Hein. Par exemple, un échec à un concours, surtout dans la vieille Europe, peut marquer toute une vie. Il ne faut pas sous-estimer l'influence des blessures sociales sur la vie. Vous voyez au cinéma Le Messager de Lozé ou bien L'Effronté de Claude Miller, où l'on voit l'opposition entre une jeune fille du peuple, Charlotte Gainsbourg, et puis une musicienne qui appartient à une autre classe. Hein. Donc voilà, les blessures narcissiques doivent prendre en compte l'opposition des classes aussi. Hein. Alors, reprenons le choix. On rêverait toujours de ne pas choisir, ou de choisir le moins possible. C'est ce que le dit Gide, toujours dans les nourritures terrestres. Il nous dit « J'espère, après avoir exprimé tout ce qui attendait en moi, satisfait, mourir complètement désespéré. » Il faut comprendre ici, n'ayant plus rien à espérer. Mais est-ce que c'est possible, hein? Est-ce que c'est possible? Je n'en suis pas sûr. Hein? Alors, il est évident que ce que nous n'avons pas choisi nous tourmente plus que ce que nous avons choisi. Parce que le non accompli s'accompagne de rêves, d'imaginaires, à la différence de ce qui est connu. Et dans beaucoup de cas, il est plus difficile de supporter les regrets que les remords. Hein. Alors, quelle est la différence? Le remords vise quelque chose que l'on a fait, actum, quelque chose qui a été fait et qui a mal tourné. Hein. Et le regret vise quelque chose que l'on n'a pas fait, le non actum, vous voyez. Hein. Alors, l'inconnu, justement, des regrets est plus séduisant que le contenu des secondes n'est désagréable. On agit, par exemple. Bon, ça tourne mal. Alors, évidemment, on est triste, hein. Mais au moins, on peut fixer ce que l'on a fait. Et on peut, effectivement, si l'on a mal agi envers quelqu'un, éprouver du repentir et aussi, si c'est possible, aller vers l'autre que l'on a lésé pour racheter sa faute, si c'est possible. Mais au moins, je veux dire que dans les remords de ce que l'on a fait, hein, eh bien, on peut fixer ce que l'on a fait. Donc, on peut faire le point sur soi-même. Tandis que dans le regret, c'est tout ce que nous n'avons pas fait, tout ce que nous n'avons pas connu. Eh bien, cela va s'embellir, s'auréoler de toute une imagination, et finalement, cela est insupportable. Hein. Alors là, je vous engage à lire dans les Contemplations de Victor Hugo un texte, une chanson, un poème qui s'appelle « Vieille chanson du jeune temps ». Hein. Il s'agit d'un jeune homme qui se promène auprès d'une jeune fille et qui n'ose rien faire, hein, par timidité. Hein. Eh bien, malgré les invites, les engageantes, hein, oui, de cette jeune fille. Hein. Alors à la fin, on lit « Je ne savais que lui dire, je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Hein. » Parfois elle sourit d'un air engageant et soupirait de l'air de dire « Il est vraiment trop godiche, comme on disait autrefois, il est vraiment trop timide. Hein. » Et alors la dernière strophe, c'est « Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds, soit n'y pensons plus, dit-elle, depuis j'y pense toujours. » Vous voyez. Hein. Donc, elle est piquée, soit n'y pensons plus, hein. Depuis, il y pense toujours. Hein. Donc, notez d'ailleurs que dans les contemplations, ce poème est suivi d'un autre hein, qui s'appelle « Elle était déchaussée, elle était décoiffée hein, », où le poète a tiré la leçon, justement, de vieilles chansons du jeune temps et a fait quelque chose. Hein. Il a agi, vous voyez. Hein. Donc, les regrets font de notre enfer, en quelque sorte. Hein. Regret sur quoi l'enfer se fonde, dit Apollinaire dans la chanson du mal-aimé. Car la mort est atroce pour quelqu'un qui a gâté, qui a gâté ou raté sa vie. Hein. Et le dernier mot, alors, est parfois un blasphème. Voyez le dernier cri de vie de Madame de Mortsauf à la fin du roman de Balzac, Le Lys dans la vallée. Hein. Avant de mourir, elle dit « Oui, vivre de réalité et non de mensonge. Est-il possible que je meure, moi qui n'ai pas vécu ?» Moi qui ne suis jamais allé chercher quelqu'un dans une lande, vous voyez, hein. C'est terrible, ça, la vie, je dirais, c'est un peu comme la mayonnaise, il faut pas la rater, hein. Mais quand on la rate, à sa vie, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, hein, au dernier moment, ça doit être une situation, terrible à supporter. Alors, nous avons chaque jour, dans chacune de nos journées, des occasions qui se présentent à nous, mais nous ne les saisissons pas, nous détournons le regard, nous allons ailleurs. Voyez, par exemple, Baudelaire a une passante dans les fleurs du mal. Hein. Il voit une femme qui s'avance dans la rue, fugitive beauté, qui m'a fait un instant souvenir et renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, hein. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, vous voyez. Donc, voilà le teasing, l'aguichage. Nous avons des circonstances, nous aurions des possibilités dans chacune de nos journées, mais en fait, nous ne les saisissons pas. Elle a passé la jeune fille d'Inerval aussi dans un poème qui s'appelle « Une allée au Luxembourg ». Hein. Voyez aussi le fameux sonnet d'Arvers. Hein. Donc, nous portons toujours le regret de toutes nos rencontres inabouties. Qu'elle se fasse en ville ou ailleurs, qu'elle soit urbaine ou autre, hein, ces rencontres sont, je le répète, un aguichage constant, un teasing, et comme une espèce de coitus interruptus, hein, c'est-à-dire une occasion manquée, hein, et le souvenir en est atroce, hein, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Voyez aussi le poème d'Antoine Paul qui s'appelle « Les passantes », que Brassens a chanté, hein. On pleure les lèvres absentes sur toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir, vous voyez. Hein. Donc, chaque fois, nous frôlons des occasions et nous ne les saisissons pas. C'est quelque chose de fondamentalement tragique. Voilà, donc l'ombre s'alimente de toutes nos rencontres inabouties, hein, l'amertume des sympathies interrompues, comme dit Flaubert dans l'éducation sentimentale, dans l'avant-dernier chapitre, cette expression me fait toujours rêver, hein, enfin, et m'impressionne toujours. Hein, voilà, on aurait pu, et puis cela n'a pas été. Alors, l'ombre va justement se densifier, s'opacifier, à proportion que nous vieillissons, et que toutes nos occasions manquées, justement, se présentent à nous avec l'auréole de tous nos regrets. Alors, à côté de l'ombre, il y a dans l'être humain un autre pôle qui s'appelle le masque social, hein, parce que la pression sociale ou les nécessités de la socialisation font que je porte toujours sur ma figure un masque pour jouer aux autres une comédie, et la vie sociale tout entière est un théâtre, hein, où chacun joue un rôle et figure dans une pièce. Alors, la plupart du temps, c'est du fédo, hein, c'est-à-dire du comique, si vous voulez, hein. Mais parfois c'est du Shakespeare, du tragique. C'est donc un volume où le vaudeville et le drame sont interfoliés, en quelque sorte. Dès qu'un individu se trouve en face d'un autre, il figure, il prend une figure, au sens du théâtre, un masque. Là, je ne vous vois pas, chers auditeurs, mais je porte quand même le masque de celui qui intervient dans une émission de radio. Vous voyez, j'ai un rôle social, hein. Voilà, donc je suis un hypocrite, au sens grec du mot hypocrites. Hypocrites qui veut dire acteur de théâtre, hein. Et quand j'avais des élèves aussi, ou des étudiants en classe, je leur disais, mais ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est le masque du professeur que je porte sur ma figure. Et alors, ce masque est important, puisque beaucoup d'hommes attachent beaucoup d'importance au regard de l'autre, et à l'idée qu'ils supposent que l'autre se fait à leur propos. Donc ils attachent de l'importance au look, à l'apparence, hein. Et pour beaucoup de gens, la vie n'est que ce jeu de miroir, hein. On dit que l'adolescent et les immatures sont dans ce cas, mais je crois que les immatures sont en grand nombre, hein. Si je dis l'enfer c'est les autres, comme le dit Sartre, hein, dans Huis clos, hein, eh bien je capitule devant le conformisme. Et le propre de l'immaturité, c'est évidemment de survaloriser le regard de l'autre et aussi de ne pouvoir être seul, hein. Alors il y a donc une comédie sociale. Parce que l'immaturité, c'est une règle, finalement, d'un certain point de vue, hein. L'image que l'on donne de soi, hein. Bon, alors, Diderot, dans Le neveu de Rameau, parlait de la pantomime des gueux, hein. Chacun joue son rôle, hein. En société, on se paie de mine, voilà, hein. C'est-à-dire, on se satisfait des images que l'on donne. On dit toujours, ça ne paie pas de mine, moi je dirais, en société, on se paie toujours de mine. Mais l'homme vrai ne se paie pas de mine. C'est Alceste, par exemple, dans Le Misanthrope, hein, ou bien alors les philosophes cyniques de l'Antiquité, comme Diogène, hein, bon. Alors, le regard des autres va me constituer, hein. Sartre dit que le garçon de café joue à être un garçon de café, hein. Et la plupart de nos vocations, disait Montaigne, sont farcesques, hein. Mais déjà Pétrone, disait dans l'Antiquité, le monde entier joue la comédie, hein. Mundus universus exercet histrioniam. Nous sommes des histrions, vous voyez. Alors cette comparaison de la vie et du théâtre se trouve chez les plus grands auteurs et elle est devenue un lieu commun. L'homme, selon Shakespeare, c'est qu'un acteur qui s'agite sur des planches, hein, et les baroques voyaient le théâtre comme une métaphore de la vie. Voyez par exemple l'illusion comique de Corneille, hein. Mourir, c'est donc finir de jouer son rôle. On peut dire en latin « acta est fabula », hein, « la pièce est jouée ». Baisser le rideau, la pièce est jouée. Ou alors, ceux qui font des jeux vidéo, ils voient toujours « game over »,« game over », c'est la fin du jeu, voilà, hein. Voilà la société, hein. Alors, ce masque, on l'appelle persona. Persona, c'est un mot latin qui signifie masque de théâtre, le masque de l'acteur, puisque les acteurs avaient toujours un masque dans le théâtre de l'Antiquité, hein. Alors, persona a donné le mot personnalité, hein. Chacun d'entre nous portant sur son visage ce masque, hein, eh bien, la personnalité n'est rien d'autre que cela. C'est une image créée artificiellement pour répondre à l'attente imaginée de l'autre, à ce qu'on imagine que l'autre attend de nous, hein. Et toute société, toute culture impose un modèle de masque, de persona, hein, mais surtout, bien sûr, les sociétés extraverties et très socialisées. Alors très tôt, on porte le masque de l'enfant soumis aux parents, puis celui de l'élève soumis au professeur, puis quand on travaille, celui du subordonné qui est soumis au supérieur, et puis on change de masque aussi, hein. On porte celui du père de famille, celui du chef, du dirigeant, etc., auquel les autres sont soumis, vous voyez. Alors, il n'y a que deux catégories de personnes qui ne portent pas le masque, c'est les jeunes enfants, parce qu'ils ne le portent pas encore, hein, et les vieillards, parce qu'ils ne le portent plus. Et c'est peut-être pourquoi les jeunes enfants et les vieillards s'entendent si bien entre eux, hein, peut-être parce qu'ils communient dans un même refus de l'apparence sociale. Alors, est-ce que porter un masque est évitable? On pourrait rêver d'une franchise et d'une nudité absolue de l'être en société, hein. Les cyniques de l'Antiquité, dont j'ai déjà parlé, se refusaient à la comédie sociale. Diogène, nous dit-on, se permit d'invectiver Alexandre, qui était pourtant le maître du monde. Alexandre lui disait « Diogène, dis-moi, ce qui te ferait plaisir, je te le donnerai. » Diogène, lui, n'avait rien, il vivait dans son fameux tonneau, c'était une jarre. Hein. Et alors Diogène s'est permis de répondre de façon impertinente à Alexandre en lui disant « Tu me fais de l'ombre, ôte-toi de mon soleil. » Et Alceste, dans le Misanthrope de Molière, ambitionne de même un monde d'où toute comédie, tout mensonge serait banni. C'est la contestation de toute une culture sociale. Mais est-ce qu'on peut faire autrement quand on vit en société que de porter un masque? Et puis aussi en réfléchissant, je trouve que ces choses-là sont très compliquées. Hein. Peut-être que le masque parental est structurant pour l'enfant. Le père et la mère, en tant que rôle, en tant qu'archétype, sont en quelque sorte les cariatides qui soutiennent l'enfant balcon, en quelque sorte. Peut-être que l'enfant a besoin, justement, de projeter sur ses parents ces images archétypales. Peut-être que le jeu de masque est nécessaire. Hein. Alors, la réponse à cette question est la suivante. Hein. Le problème, c'est pas de porter le masque, mais de se confondre avec lui. C'est assez, disait Montaigne, de s'enfariner le visage, sans pour autant s'enfariner le cœur. Il faudrait bien distinguer le rôle que l'on joue et l'être que l'on est. Alors c'est difficile, bien sûr. Hein. Lorsque Montaigne était maire de Bordeaux, il prenait bien soin de ne pas se confondre avec sa fonction. Il disait « Le maire et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire. Il faudrait se réserver toujours, comme il disait, une arrière-boutique. » Dans son cas, c'était sa librairie, c'est-à-dire sa bibliothèque. Hein. La vérité de l'être, elle est à ce prix. Hein. En effet, il y a d'énormes distorsions qui s'opèrent dans la personnalité lorsque quelqu'un joue trop bien son rôle social, porte trop bien son masque, s'identifie trop à ce rôle précisément. Alors, les proches des gens qui sont par ailleurs de très bons acteurs en société, ou que l'on vante pour cela, auraient beaucoup à nous apprendre sur eux, sur ce qu'ils sont profondément, vous voyez. Par exemple, quelqu'un que l'on vantera pour sa gentillesse, ou sa patience envers ses collègues, ou envers ses subordonnés dans sa vie professionnelle. Chez lui, une fois le masque tombé, il se comportera comme un petit chef ou un tyran domestique, plein de tempêtes, si vous voulez, un Jupiter tonnant et hystérique, si vous voulez. Donc la vie privée contredit la vie publique. Ce genre de distorsion est très fréquent. Elles proviennent, ces distorsions, d'un décalage entre le moi social, où l'on joue trop bien son rôle, en quelque sorte, et dans lequel on se confond avec son rôle, et l'être profond. Et souvent, le moi social colle si bien à la peau qu'on ne s'aperçoit pas du problème qui vient de ce que la vie sociale est survalorisée. Alors, vous savez, c'est très simple. Pour connaître quelqu'un, il faut écouter non pas ce qu'il dit en société, hein, ou au micro, etc., mais interroger ses proches, interroger sa femme, interroger ses enfants. Hein. Bon, parce qu'une fois rentré chez soi, le masque, là, il tombe. Hein. Donc, moi, je me méfie toujours de la belle image que les gens donnent d'eux-mêmes en société. Chez eux, ils ne sont pas du tout identiques à cette image-là. Hein. Alors, on voit très bien tout cela dans le récit d'Albert Camus qui s'appelle « La chute ». Il s'agit de la chute des masques. Hein. Ce texte est plein d'humour grinçant, vous voyez. Par exemple, on lit la chose suivante. « L'esclavage, qu'on soit contraint de l'installer chez soi, passe encore, mais sans vanter, c'est un comble. » Je parle de ces petits chefs là, hein, bon, qui ont une attitude fascisante. Hein. Ils terrorisent leurs femmes, leurs enfants. On a toujours ces pulsions fascisantes en soi. Hein. Et quand on a ni femme et enfant, on a un chien, par exemple. Dressé au pied, le chien, voilà, hein, viens, le chien. Donc, c'est si vous voulez, quelque chose qui est dans l'être humain. Hein. Et donc, lorsque les masques sont arrachés, hein, lorsque les masques chutent, eh bien, l'être apparaît. Souvent, ce n'est pas à son avantage. Voyez aussi Ubu Roi d'Alfred Jarry. Hein. Les masques sont complètement arrachés. Par exemple, on a il y a des choses qui sont imprononçable en société. Eh bien, le père Ubu le dit. « Mère Ubu, vous êtes bien laide aujourd'hui. Serait-ce parce que nous avons du monde ?» Vous voyez, hein. Donc, cet arrachement, justement, montre l'être dans toute sa nudité. Et parfois, c'est très salutaire. En effet, il y a une mise en scène de la vie sociale. Hein. C'est un livre d'Erwin Goffman. Hein. Et les rituels de savoir-vivre renvoient à un théâtre social. Alors notez que l'équivalent en Inde de la persona jungienne, parce que c'est Jung qui emploie le mot persona comme il emploie le mot ombre, hein, l'équivalent en Inde de cette persona, qui est l'analogue analogue au surmoi de Freud, hein, bon, j'y reviendrai plus loin, hein, c'est ce qu'on appelle le dharma, dharma, D-H-A-R-M-A, à ne pas confondre surtout avec le karma, hein, qui est la loi selon laquelle toute action engendre tout homme récolte ce qu'il a semé, en quelque sorte, hein, tout homme récolte ce qu'il a semé. Donc, le dharma, c'est le rôle à jouer par chacun, hein. Donc, notre personnalité sociale, disait Proust, est une création de la pensée des autres. Chacun joue sa partie. Alors, est-ce qu'il faut toujours en être dupe, hein ? Malraux disait, l'intelligence, c'est la destruction de la comédie, hein ? Alors, en un sens, le théâtre est indispensable, hein ? Puisque la civilité empêche la guerre civile, hein. La politesse aussi, la main qui tient la tasse de thé n'est pas disponible pour donner une gifle à l'interlocuteur, pour lui taper sur la figure, si vous voulez, hein. Donc c'est nécessaire que le dressage des animaux humains se fasse par imposition de rôles, de masques, etc., hein. Mais dans un autre sens, c'est exténuant, hein. Puisque le savoir-vivre peut empêcher de vivre. Hein. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense au film de Laurent Canté qui s'appelle Entre les murs, qui a eu sa palme d'or au Festival de Cannes, où il s'agit d'un professeur qui parle à des élèves de quatrième directement, sans masque social. Ce film a bluffé le jury de Cannes, qui a été impressionné par cette franchise et cette sincérité. Mais moi, j'étais frappé en voyant ce film, justement, au fait que les élèves, n'ayant plus de masque à respecter, vont se comporter, comme disait l'autre récemment, comme des sauvageons, hein, des sauvageons, c'est-à-dire des gens qui ne craignent plus rien, vous voyez. Donc, je crois qu'il est nécessaire, quand même, de porter ce masque. Mais le problème, c'est de ne pas se confondre avec lui, hein, parce que ce monde de pur apparence, justement, ne nous dit pas ce que nous sommes vraiment. Alors, les moralistes l'ont montré, La Bruyère, par exemple, dans ses caractères, ou bien certains esprits dans un texte qui s'appelle La fausseté des vertus humaines. Ils ont montré que le monde social n'était qu'un monde d'apparence. Bon, dans un certain sens, c'est nécessaire, je le répète, mais bien sûr, il ne faut pas être dupe. Donc il faudrait jouer le jeu, mais avec conscience du jeu, avec conscience que ce n'est qu'un jeu, avec une certaine distance, hein. Et là, on l'a toujours dans les grandes spiritualités du monde. On a toujours cette idée-là. Vous prenez la Bhagavad Gita, hein. Arjuna demande, est-ce que je dois combattre depuis le temps que le sang coule? Eh bien, je ne me vois pas en train de combattre. Alors Krishna apparaît, c'est l'incarnation de Vishnu, hein, et lui dit, ben, combat, comme si combattre servait à quelque chose. Eh bien, tirons de cela une leçon. Agissons comme si. Als ob, comme disent les Allemands, comme si cela servait à quelque chose. Ne nous confondons pas avec notre masque, mettons une distance entre nous et nos actions, jouons le jeu, mais avec conscience du jeu que nous sommes en train de jouer. Voilà, eh bien, chers auditeurs, je vous abandonne jusqu'à la semaine prochaine, où nous continuerons à réfléchir sur cette dialectique de l'ombre et du masque. J'abandonne donc maintenant le masque de celui qui parle à la radio pour essayer de redevenir moi-même. Voilà, alors rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.